sur RFI.
À l'écoute de RFI, 19h ici à Paris, 18h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Et c'est l'heure du grand journal du soir. Bonsoir Adrien Delgrange.
Bonsoir à toutes et à tous.
Ravagé par des mois de guerre, quel avenir pour Gaza et ses habitants?
Plusieurs dirigeants arabes et le secrétaire général de l'ONU sont réunis à l'heure actuelle au Caire. Notre correspondant en Égypte nous attend. Volodymyr Zelensky regrette sa vive altercation avec le président américain la semaine dernière à la Maison-Blanche. Le président ukrainien déclare vouloir arranger les choses avec les États-Unis. Pendant ce temps-là, la France va s'efforcer de réunir tous les moyens possibles avec d'autres pays européens pour se substituer à l'aide militaire américaine à l'Ukraine, assure le Premier ministre François Bayrou, que vous entendrez.
Et l'un des premiers défenseurs de la sécurité européenne, c'est le président français Emmanuel Macron. Il s'est illustré en organisant la semaine dernière plusieurs sommets en présence de dirigeants du vieux continent. Et bien, le journal suisse Le Temps y voit là la renaissance du président français. Nous appellerons nos collègues après ce grand journal du soir.
Le dossier de cette édition, plus 25%. Sans l'augmentation fulgurante des droits de douane imposés à plusieurs pays dans ce journal, la réaction canadienne par la voix de son Premier ministre.
Donald, this is a very dumb thing to do.
Donald, c'est vraiment stupide ce que tu fais. Dans ce journal aussi, le Parlement serbe qui ressemble à un stade de foot un soir de match, fumigène, fusée éclairante tirée par des élus d'opposition pour dénoncer la corruption. Et puis enfin, l'histoire d'un tableau. Le tableau d'un célèbre peintre flamand volé puis retrouvé 50 ans plus tard. L'histoire contée à la fin du journal. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus.
Plusieurs dirigeants de pays arabes sont donc réunis au Caire pour imaginer la reconstruction de Gaza.
C'est un sommet extraordinaire de la Ligue arabe sur Gaza qui s'est ouvert ce matin dans la capitale égyptienne en présence de nombreux chefs d'État et du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Nous retrouvons notre correspondant au Caire, Alexandre Bouchianti. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Un sommet qui vise à répondre au projet du président américain Donald Trump de transformer Gaza, je le cite, en Riviera du Moyen-Orient. Et dès l'ouverture du sommet, Alexandre, le président égyptien, a donné le ton.
Oui, tout à fait. Le président Abdel Fattah el-Sissi a présenté le plan qui a été élaboré pour le Caire pour la reconstruction de Gaza sans évacuation de la population. Il a insisté sur la composition d'une commission neutre sous l'égide de l'autorité palestinienne qui sera chargée de gérer Gaza durant la première phase de la reconstruction. Il a indiqué que les forces de l'ordre palestiniennes à Gaza seront mixtes de Cisjordanie et de la bande de Gaza et sera entraîné en Égypte. Les intervenants ont trouvé que le plan égyptien était tout à fait adapté et ils ont aussi évité de critiquer les États-Unis. Même c'est le contraire. Le président Sisi s'est dit confiant dans la capacité du président Trump à réaliser la paix. Mieux, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a remercié le président Trump pour ses efforts dans le cessez-le-feu et son implication en vue de réaliser la paix entre Palestiniens et Israéliens. Regrettant les divergences avec le Hamas, Abbas a proposé des élections générales palestiniennes en 2026.
Alexandre Bouchianti, en direct du Caire pour RFI. La guerre en Ukraine et les dernières déclarations de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, propose ce soir une trêve avec la Russie dans les airs et en mer pour entamer des discussions sur, dit-il, une paix durable et ce, sous le leadership de Donald Trump. Par ailleurs, Volodymyr Zelensky s'est dit prêt à signer avec le président américain l'accord cadre sur l'exploitation des ressources naturelles, souhaitant, dit-il, arranger les choses avec le président américain.
Alors justement, concernant l'Ukraine, la journée a été marquée par cette annonce de l'arrêt de l'aide militaire américaine. Et Adrien Delgrange, François Bayrou réagit.
Après s'être exprimé à l'Assemblée nationale hier, le Premier ministre français François Bayrou s'est prêté au même exercice au Sénat aujourd'hui. Et pour le chef du gouvernement, la France doit réunir tous les moyens pour compenser le gel de l'aide américaine militaire.
Quel est l'enjeu pour la France ? L'enjeu est très simple. Il s'agit de réunir tous les moyens possibles pour se substituer autant que possible à une aide internationale qui aurait été arrêtée. C'est un effort considérable que les Européens, en tout cas ceux parmi les Européens qui sont décidés à aider l'Ukraine, doivent réunir. Mais au-delà de cela, et en souhaitant que notre soutien permette à l'Ukraine de résister, au-delà de cela, il nous faut bâtir, nous, une défense européenne.
Le Premier ministre français devant les sénateurs aujourd'hui.
Ils avaient été annoncés il y a un mois, puis reportés. Eh bien, ce mardi, la hausse des droits de douane annoncée par Donald Trump est entrée en vigueur. C'est le dossier de votre édition.
25% d'augmentation sur les importations canadiennes et mexicaines, 20% sur celles venues de Chine, 10% de hausse sur les hydrocarbures canadiens. Lila Olkinouara, bonsoir.
Bonsoir Adrien.
Alors dites-nous, Lila, comment a réagi tout d'abord le gouvernement canadien à cette escalade commerciale?
Justin Trudeau déplore une décision qui va perturber une relation particulièrement fructueuse. Après l'annonce de l'application de ces nouveaux droits de douane, les mots du Premier ministre canadien sont on ne peut plus clairs.
Il n'y a absolument aucune justification à cette hausse des droits de douane. Les Canadiens sont raisonnables, nous sommes polis, mais nous n'allons pas nous laisser faire. Pas quand notre pays et le bien-être de sa population sont menacés.
Une réponse particulièrement musclée. En effet, le Canada est signataire d'un accord trilatéral avec le Mexique et les États-Unis. Entre les trois pays, avant l'annonce, aucun droit de douane ne touchait les échanges commerciaux. Face aux nouvelles taxes voulues par Donald Trump, la riposte du gouvernement Trudeau ne s'est pas fait attendre. Dès aujourd'hui, des droits de douane de 25% toucheront certains produits américains, comme la viande, les œufs, les fruits et le vin.
Alors ça, c'est pour la réaction politique, Lila, mais comment réagissent les entreprises canadiennes ?
Du côté des entreprises, c'est l'incompréhension et l'inquiétude qui dominent. Michel Belval est le président de la Chambre de commerce américaine au Canada. Pour lui, ce 4 mars est un jour sombre pour les entreprises du pays.
70% des exportations du Québec et du Canada vont vers les États-Unis. Si on regarde au Québec, il y a 500 000 emplois qui dépendent des exportations vers les États-Unis et les tarifs américains pourraient mettre en péril jusqu'à 100 000 emplois. Et c'est inexplicable ce qui se passe aujourd'hui.
D'autant plus inexplicable pour Michel Belval que ces nouveaux tarifs vont aussi avoir des conséquences aux États-Unis.
13 millions d'emplois aux États-Unis qui sont supportés par des entreprises mexicaines et canadiennes. Ces emplois-là sont aussi en jeu. Et c'est là-dessus que ça devient inquiétant. C'est de voir que les tarifs vont affecter le Canada de beaucoup et aussi les entreprises américaines.
Alors, Lila, quelles peuvent être désormais les conséquences de cette guerre commerciale sur l'avenir politique du Canada?
Alors, cette nouvelle guerre commerciale est peut-être une aubaine pour le Parti libéral de Justin Trudeau. Le Premier ministre qui a annoncé sa démission en janvier doit désigner son successeur ce dimanche 9 mars. Sa gestion de cette crise redonne de l'élan à son parti, dont la popularité était en chute libre, alors que les élections générales doivent se tenir avant la fin de l'année.
Et Lila Olkinouara pour le dossier de notre édition, une guerre commerciale annoncée qui est bien là. Autre riposte à l'autre bout de la planète. La Chine a annoncé aujourd'hui des droits de douane supplémentaires sur une série de produits américains dont le poulet, le blé, le maïs ou le soja en réponse à l'entrée en vigueur de nouvelles taxes américaines.
Il est 13h08 à Washington. Vous êtes à l'écoute du Grand Journal du Soir avec Adrien Delgrange. Adrien, dans quelques heures, un moment très attendu aux États-Unis.
Donald Trump va prononcer son premier discours devant le Congrès, Sénat et Chambre des représentants réunis en session conjointe. C'est très attendu parce que c'est toujours très suivi. Nous sommes avec Guillaume Nodin à Washington. Bonjour Guillaume.
Bonjour Adrien, bonjour à toutes et à tous.
Très attendu aussi Guillaume parce que Donald Trump s'est créé l'événement.
Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Et depuis hier sur les réseaux sociaux, il annonce que la soirée va être big, c'est-à-dire importante, voire énorme. Selon les informations obtenues par la chaîne d'information conservatrice Fox News, il sera question dans le discours de renouveau du rêve américain. Il devrait parler de ce qu'il a fait depuis le début de son deuxième mandat dans le pays et à l'étranger, de l'économie et de la frontière et de ses plans pour la paix dans le monde. Il sera forcément question de l'Ukraine et on verra ce que Donald Trump dira du soutien européen au pays et des tentatives de Volodymyr Zelensky dont vous avez parlé de recoller les morceaux après l'invraisemblable spectacle de vendredi dernier dans le bureau ovale. On verra aussi qui seront les invités. Surprise, il y a quelques années, Donald Trump avait réuni un soldat de retour d'Afghanistan avec sa famille qui ne s'y attendait pas. C'était cette année-là que l'ancienne présidente démocrate de la Chambre, Nancy Pelosi, avait ostensiblement déchiré sa copie du discours de Donald Trump. Depuis le 20 janvier, les démocrates ont du mal à réagir. Leur chef à la Chambre et au Sénat les encourage à venir accompagnés d'une personne qui souffre des premières décisions de Donald Trump, comme des fonctionnaires abruptement remerciés. D'autres ont déjà annoncé leur intention de boycotter le discours.
RFI Washington, c'était Guillaume Naudin.
Dans l'actualité en Asie, les pompiers japonais qui continuent de lutter contre les flammes.
Ils tentent d'éteindre le pire incendie de forêt que le Japon ait connu depuis un demi-siècle. Depuis maintenant 5 jours, une forêt brûle près de la ville d'Ofunato dans la région d'Iwate. Le feu a causé la mort d'une personne. 4000 habitants ont dû être évacués. Les autorités attendent désormais des chutes de neige pendant la nuit pour aider les pompiers à circonscrire l'incendie.
Des gaz lacrymogènes et des fumigènes rouges, cela se passe dans l'enceinte du Parlement serbe.
La session parlementaire du jour a complètement dégénéré. Des élus de l'opposition ont délibérément perturbé la séance en soutien, disent-ils, aux manifestations contre la corruption. Rappelons que la Serbie est secouée depuis 2 mois par des manifestations menées par des étudiants après l'effondrement d'un toit devant une gare ferroviaire qui avait causé la mort de 15 personnes. Aujourd'hui, devant le Parlement aussi, les étudiants se sont de nouveau rassemblés. Reportage RFI à Belgrade, Laurent Rouy.
Ce député de la majorité est inaudible. L'opposition bloque l'Assemblée, mais le pouvoir essaye à toute force de se maintenir. Député d'opposition du Front des Verts et de la Gauche, Radomir Lazovic harangue la foule, massée devant le Parlement.
Sans le soutien des citoyens, de la société civile, des experts, des médias, tous ceux qui ont la liberté dans le cœur, on ne pourra rien faire. Il ne doit y avoir qu'un seul ordre du jour à l'Assemblée aujourd'hui. Accepter toutes les demandes des étudiants.
Dans l'hémicycle, l'opposition a lancé des fumigènes, vidé des extincteurs sur 2 ministres. Certains en sont venus aux mains. Dehors, la foule jette des œufs sur le bâtiment, invective le gouvernement, voleur, assassin, démission. Pour ce manifestant, le président est responsable de tous les maux.
Le Parlement exécute le bon vouloir d'un seul homme. On doit se battre, on doit mettre son pouvoir à terre.
À une fenêtre, la bannière à la main ensanglantée des protestataires donne l'impression que le Parlement a déjà basculé. En ville, on ne parle que des scénarios sur la fin du président Vučić. Il est pourtant toujours au pouvoir. La situation est de plus en plus imprévisible. Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
De Belgrade à Paris, on en vient à l'actualité française, Adrien. Jean-Louis Debré s'est éteint.
Ce matin, c'était un grand témoin de la 5e République en France, ancien maire, ancien député. Il a aussi été président de l'Assemblée nationale, président du Conseil constitutionnel. Il s'est éteint la nuit dernière à l'âge de 80 ans. Jean-Louis Debré connaissait tous les rouages ou presque de la vie politique du pays. L'Assemblée nationale lui a rendu hommage aujourd'hui en respectant une minute de silence. Pour le chef de l'État, Jean-Louis Debré a consacré sa vie à une certaine idée du pays, a réagi sur X Emmanuel Macron. Sa mort avait déclenché des émeutes en France. C'était il y a 1 an et demi, le 27 juin 2023. Un policier a tué Naël, 17 ans, d'une balle tirée à bout portant. 1 an et demi plus tard, le parquet de Nanterre a requis un procès pour meurtre contre le policier à l'origine de ce tir.
Et puis, de quoi s'agit-il? Volé en Pologne en 1974, retrouvé 50 ans plus tard aux Pays-Bas?
Il s'agit d'un tableau du peintre flamand Peter Bruegel le Jeune. L'œuvre a une histoire rocambolesque, vous allez l'entendre, parsemée de meurtres liés au service secret polonais communiste de l'époque, avant d'être retrouvé avec l'aide d'un détective privé spécialiste des œuvres d'art. La suite, c'est Jean-Jacques Herry qui nous la raconte.
C'est un tableau rond et petit, 17 cm seulement, mais peint par l'un des plus grands maîtres flamands du XVIIe siècle, Peter Bruegel le Jeune, vers 1626. Il représente une paysanne, des pinces avec des braises fumantes dans une main, un chaudron d'eau dans l'autre. En 1974, un employé du musée national de Gdańsk constate sa disparition et quelques jours plus tard, un douanier polonais est retrouvé mort, immolé par le feu. Il allait être interrogé par la police alors qu'il venait de signaler l'exportation illégale d'œuvres d'art via un port de la Baltique. politique. Coïncidence, simple hasard, dans la Pologne communiste de l'époque, on s'empresse en tout cas de classer l'enquête sur le meurtre du fonctionnaire. Même chose pour celle du vol du tableau. Pendant 50 ans, on n'en parlera plus. Et puis l'an dernier, des journalistes d'un magazine d'art néerlandais sont intrigués par un tableau exposé dans un musée à Gouda et prêté par un collectionneur privé. Aidés dans leur recherche par la police, puis par l'intervention du détective Arthur Brandt, celui-là même que l'on surnomme l'Indiana Jones de l'art, ils parviennent à identifier le tableau de manière certaine. L'œuvre, qui vaut sans doute plusieurs millions d'euros, devrait bientôt retourner en Pologne, là d'où elle vient, mais son périple de 50 ans à travers l'Europe garde encore une grande part de son mystère. Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
Et puis juste avant de refermer ce journal, comme souvent à cette heure-ci, l'heure à laquelle le Vatican donne des nouvelles de l'état de santé du souverain pontife, le pape François, âgé de 88 ans, hospitalisé pour une pneumonie. Son état de santé est ce soir stable. Aucune nouvelle crise respiratoire n'a été enregistrée, indique le Vatican. RFI Soir, la suite, c'est avec vous, Romain Ouzoui.
Évidemment, ensuite, très près, la santé du pape François. Merci beaucoup, Adrien Delgrange. C'était le grand journal du soir sur Radio France Internationale.
RFI Soir, Romain Ouzoui.
Écoute d'ailleurs, au programme, dans les prochaines minutes, on va évoquer la renaissance d'Emmanuel Macron. C'est ainsi que le journal suisse Le Temps perçoit la séquence qui est en cours et qui voit le président français en première ligne pour défendre la sécurité de l'Europe. Nous appellerons nos collègues du Temps. Et puis, c'est le printemps avant l'heure en France. Ça en réjouit certains, beaucoup moins les agriculteurs qui voient cette énième illustration du changement climatique comme une menace. Reportage à suivre dans l'ouest du pays. Pour l'heure, voici les sports sur RFI. Bonsoir Sofiane Amazian.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Allez, actu footballistique.
Il y en a beaucoup.
Importante. Huitième de finale de Ligue des Champions, ça commence ce mardi. Et parmi les matchs du jour, Lille qui se déplace en Allemagne sur la pelouse du Borussia Dortmund.
Ouais, les Dogs se dressent face au mur jaune romain après avoir brillamment validé leur ticket pour les huitièmes de finale en finissant dans le top 8 de la phase de Ligue. Les Lillois vont devoir se sublimer face aux finalistes de l'édition précédente. Mais Dortmund galère un peu plus cette saison en championnat, malgré un Serou Girassi étincelant. L'attaquant guinéen est actuellement le meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 10 réalisations à domicile. Le club de la Roure sera poussé par ses supporters et l'entraîneur lillois Bruno Genesio estime que cela doit être une motivation pour ses joueurs.
On est dans les 16 meilleures équipes européennes. C'est aussi pour vivre ce genre de moment qu'on est là, qu'on fait ce métier. J'ai jamais joué ici, je suis jamais venu ici dans ce stade, mais je sais, pour en avoir parlé avec ceux qui l'ont fait, que c'est assez impressionnant. Mais je crois aussi que c'est dans ces moments-là qu'on voit les bonnes équipes, les bons joueurs et les gens qui sont capables de se transcender aussi, même si ce sera une ambiance peut-être un peu, on va dire, hostile. Mais on aura aussi 4500 supporters et aussi pour eux, il faudra gérer nos émotions dans les temps forts de notre adversaire.
Et Bruno Genesio au micro de Babacar Diarra, coup d'envoi de ce Dortmund-Losc, 20h temps universel.
Mais alors la grande affiche du jour, ça va être le derby de Madrid, le Real, vainqueur la saison passée, qui accueille l'Atlético.
Les deux équipes qui se sont souvent rencontrées dans la compétition et systématiquement, c'est le club merengue qui s'en est sorti en remportant notamment les finales en 2014 et 2016. Cette saison, les deux clubs de Madrid se sont quittés dos à dos, deux matchs, deux fois un but partout. Et ce huitième de finale sera également l'occasion de voir face à face deux champions du monde français, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, le tout dirigé par deux entraîneurs qui se respectent, Carlo Ancelotti.
Je le respecte beaucoup car je pense que c'est un grand entraîneur. Il a fait de grandes choses à l'Atlético. Il a amené le club au plus haut niveau européen pendant longtemps. Et en plus de cela, ce que j'aime chez lui, c'est sa lecture des matchs, la façon dont il amène l'équipe sur le terrain, sa stratégie, l'engagement défensif de son équipe. J'aime beaucoup tout ça. En ce qui concerne Griezmann et Mbappé, Griezmann est différent. Il aime jouer, il contrôle très bien le jeu, il rate rarement une passe. Kylian, lui, a la qualité d'un véritable attaquant. Il est efficace quand il faut marquer, mais c'est aussi passé.
Et Carlo Ancelotti qui évoque évidemment le Cholo Simeone, entraîneur des Colchoneros. Sans plus de ce choc madrilène à suivre dès 20h temps universel, deux autres rencontres romains, PSV Eindhoven, Arsenal, coup d'envoi également à 20h TU. Et en ce moment, le Cercle Bruges accueille Aston Villa, un but partout. On est en Belgique, ouverture du score des Anglais, réduction du score des Brugeois par l'intermédiaire de De Kuyper.
Et évidemment, ces huitièmes de finale de Ligue des Champions, ils se poursuivront demain mercredi. Dans le reste de l'actualité sportive, le procès en appel de l'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, qui se tient actuellement en Suisse.
Et le parquet suisse qui a requis ce mardi 1 an et 8 mois de prison avec sursis contre d'abord Michel Platini, puis l'ex-président de la FIFA Sepp Blatter, rejugés tous deux après leur acquittement en première instance dans une affaire de paiement suspect. La cour d'appel extraordinaire du tribunal pénal fédéral réuni à Mutens rendra sa décision finale le 25 mars dans ce dossier qui a brisé la carrière des deux dirigeants et dans lequel ils encourent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement pour escroquerie. Et puis avant de se quitter, du tennis, c'est le Masters 1000 d'Indian Wells aux États-Unis qui débute demain. Eh bien, le tirage au sort a eu lieu il y a quelques heures. Le Serbe Novak Djokovic pourrait rencontrer l'Australien Nick Kyrgios au deuxième tour, puis l'Espagnol Carlos Alcaraz en quart de finale. Pour rappel, le numéro 1 mondial, l'Italien Yannick Sinner, est absent car suspendu plusieurs semaines pour dopage.
Mais il sera de retour à Roland-Garros.
Il sera de retour pour le prochain Grand Chelem à Roland-Garros.
Et vous également, Sofiane Amazian.
Dès demain.
Merci beaucoup. Il est 19h20 ici à Paris. L'Union européenne sonne donc la révolte. Lâchée par les États-Unis, Bruxelles prend en main son destin et dévoile, par la voix de la Commission européenne, eh bien un plan qui pourrait mobiliser près de 800 milliards d'euros pour sa défense. L'un des premiers artisans de ce réveil européen n'est autre que le président français. Emmanuel Macron a en effet ces dernières semaines tenu plusieurs sommets à l'Élysée, aux côtés de dirigeants du vieux continent. Et preuve de l'implication française dans ce dossier, hier, lundi, un débat sans vote sur la situation en Ukraine et sur la situation de la sécurité en Europe, eh bien, s'est tenu à l'Assemblée nationale. Bonsoir Paul Ackermann.
Bonsoir.
Correspondant en France du quotidien suisse Le Temps, vous vous intéressez à ce que vous appelez, c'est le titre de votre article, la renaissance d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on peut dire que finalement la situation actuelle sert le président français, lui l'Européen convaincu?
Oui, sur le même, je dirais, dans les mots, c'est-à-dire que ça confirme des intuitions qu'il avait dès son arrivée au pouvoir en 2017. On se souvient de son premier discours de la Sorbonne et puis des suivants, où il a mis la souveraineté européenne au centre de tout. Il croyait vraiment en ça. Le Covid lui a donné une première fois raison avec les pénuries qu'il a pu avoir. Et puis, il a dit qu'il fallait... s'émanciper des grandes puissances, il fallait une Europe puissance, y compris au niveau militaire, et maintenant on voit que tout le monde s'aligne derrière lui sur cette intuition-là au niveau européen.
Alors la grande question, c'est de savoir si cette dynamique peut servir Emmanuel Macron sur le plan intérieur, puisqu'il est embourbé toujours dans une popularité qui est très basse, il est plombé encore par la dissolution de l'Assemblée nationale l'an dernier. Est-ce que cela peut le relancer?
Mais en tout cas, ça lui redonne une présence, on le voit bien ces derniers jours, il est partout, alors que François Bayrou ou Michel Barnier avaient pris sa place dernièrement, donc là il est de nouveau partout. Ça lui donne en tout cas une centralité dans le débat français, peut-être pas plus de pouvoir, parce que les forces politiques et sur les dossiers intérieurs restent les mêmes. Mais en tout cas, il a retrouvé une raison d'être pour la fin de ses mandats, et parce qu'il faut savoir qu'en 2027, il quittera l'Élysée. Et d'ici là, on ne savait pas trop ce qu'il ferait. Maintenant, on le voit bien, parce qu'il y a ce domaine réservé en France du président sur les questions diplomatiques et militaires, et on voit bien que dans les mois qui viennent, ça va être absolument central.
Et est-ce que ça peut durer, cette bonne dynamique? Parce que Emmanuel Macron, également sur l'international, par le passé, s'est illustré par certaines déclarations qui ont fait polémique. On se souvient quand il a dit l'OTAN en état de mort cérébrale, on se souvient quand il a dit qu'il fallait pas, entre guillemets, humilier la Russie.
Alors, c'est effectivement les experts que j'interview dans mon article sont dubitatifs sur ces déclarations fracassantes, c'est-à-dire que, bon, quand il parlait de l'OTAN en mort cérébrale, finalement, aujourd'hui, on voit que c'était pas si faux que ça. Humilier la Russie, par contre, il s'était trompé. Il avait aussi été le premier à mentionner l'idée de troupes au sol européennes en Ukraine. Tout le monde s'était moqué de lui. Aujourd'hui, on voit que c'est beaucoup moins drôle. Donc, en fait, il lance un peu ses ballons d'essai, enfin il a l'habitude de lancer ses ballons d'essai parce que c'est quelqu'un qui croit que les idées disruptives peuvent bouger les lignes. Ce que me dit l'expert Sylvain Kahn de Sciences Po que j'interview, c'est que quand c'est fait de manière collective, qui prévient ses partenaires, c'est vécu comme une bonne manière d'utiliser une spécificité de la diplomatie française qui est d'être un peu une boîte à idées. Quand c'est fait un peu de son côté, ça peut être un peu vécu comme une mauvaise manière de faire cavalier seul. Donc Vera, on a vu que ce week-end, suite au sommet de Londres, il a tout de suite, dès le retour en avion, dit au Figaro qu'il y avait un plan de trêve d'un mois, etc. Dès le lendemain, Londres a dû dire « Attendez, c'est pas si simple, on n'a pas encore discuté les détails ». Donc on voit que cet activisme peut être vécu très positivement, mais peut aussi un peu brusquer les partenaires de temps en temps.
La renaissance d'Emmanuel Macron, titre de l'article que vous publiez, Paul Ackermann, donc cette semaine dans Le Temps, le quotidien suisse, et évidemment sur le site internet du journal. Merci beaucoup.
Merci à vous.
19h, bientôt 25 minutes ici à Paris. On va pas vous faire la météo, mais il fait beau en France actuellement. Et cela s'accompagne d'un printemps précoce. Cela se voit, hein, les pâquerettes, les jonquilles ou encore les primes vertes sont en fleurs. Ça, c'est pour les bonnes nouvelles, car pour les agriculteurs, voilà une situation inquiétante. Ce qui était exceptionnel, eh bien, devient de plus en plus la norme en raison du changement climatique. Reportage en Dordogne, département du sud-ouest de la France, signé Noémie Leweller.
On voit les premières fleurs s'ouvrir là-haut.
Par cette belle matinée ensoleillée, le vent souffle fort et transporte le parfum fruité des fleurs blanches d'amandier. Elles sont en avance d'une ou deux semaines et toutes les branches autour d'elles bourgeonnent. Clément Lafoscade possède 300 hectares de culture près d'Issijac, au sud de la Dordogne. Installé depuis 2014, il cultive des céréales et des arbres fruitiers.
Pour l'instant, les pruniers sont pas débourrés, c'est encore dans les clous. Ils ont une floraison, je pense, vers le 20 mars. Mais à côté de ça, les amandiers sont en train de mettre la fleur. Donc là, c'est un peu plus inquiétant.
Inquiétant parce qu'un bourgeon, une fleur ou un fruit qui sort précocement peut être tué par le gel. Les températures anormalement douces pour la saison pourraient chuter brusquement et ruiner une partie, voire la totalité de la récolte.
Ce week-end, normalement, ils annoncent peut-être une gelée à moins 2, moins 3. Donc du coup, risque de perte de fruits et Donc il va peut-être falloir faire une lutte contre le gel en mettant de la paille et en brûlant des bottes de paille. Ouais.
Brûler des bottes de paille ou de foin, asperger les cultures d'eau à température ambiante, installer des brûlots, des braseros, des guirlandes infrarouges, les moyens de lutte contre le gel ne manquent pas. Autre culture, même casse-tête pour le vigneron Pierre-Étienne Seret à une vingtaine de kilomètres de là, dans le Bergeracois. Il inspecte aujourd'hui ses 18 hectares de vignes et vérifie que le palissage est suffisamment solide.
Pour ma part, une éolienne, ce serait à mon avis, à mon sens, plus intelligent que d'autres techniques, des fils chauffants ou des brûlots. Voilà. Car avec une éolienne, on lutte sur une zone assez étendue.
Ce système qui brasse l'air chaud et le fait redescendre à un coût environ 40 000 euros. Les exploitants, souvent endettés, n'ont pas tous la capacité de s'équiper. Alice de Mascarel est élue à la Chambre d'agriculture de Dordogne. Cette maraîchère représente la Confédération paysanne.
Ça va aussi de pair avec la situation économique catastrophique auxquelles font face les paysans et les paysannes depuis des décennies. Les petits systèmes diversifiés qui ont plusieurs ateliers, un peu d'élevage, un peu de maraîchage, un peu de verger, ou et même elles vont pas pouvoir investir dans des systèmes comme ça, et donc ça va être du système D et qui va pas porter ses fruits en termes de protection si les gels sont trop intenses.
Dans le secteur agricole, les revenus ont baissé de 40% en 30 ans. Noémie Leweller, Bergerac, RFI.
Rejoignez la communauté de RFI sur les réseaux sociaux. Sur nos pages Facebook, vous pouvez suivre, commenter l'actualité et dialoguer avec vos animateurs préférés. Restez aussi connectés avec nous sur Twitter et découvrez nos dernières images sur le compte Instagram de la Radio Mondiale.
Allez, retour à Paris, 19h28, ici dans la capitale française. Et évidemment, votre session d'infos se poursuit hein, ce soir sur Radio France Internationale. Dans une minute, ce sera la première édition d'Afrique Soir, qui sera présentée par Arthur Ponchelet, à la une des négociations en cours entre le GNIM et les rebelles du Front de Libération de l'Azawad, le FLA. Ils envisagent de mener des opérations conjointes dans le nord du Mali. On vous en parle donc dans une minute. Et puis après Afrique Soir, eh bien, ce sera à l'heure du journal de Véronique Rigolet, international de 20h. dans 30 minutes sur RFI et à partir de 20h10, heure française, votre session reportage pendant 50 minutes, accent d'Europe, d'abord qui sera en Grèce et en Autriche ce soir, et puis le grand reportage à partir de 20h30 dans une heure qui nous emmènera en Argentine pour évoquer le démantèlement silencieux de la mémoire de la dictature. Merci beaucoup d'écouter RFI, ne bougez pas, restez comme vous êtes, on revient dans une minute.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Au Gabon, Brice Clotaire-Oligui-Nguema, le tombeur d'Ali Bongo, se lance dans la course à la présidentielle du 12 avril. Face à lui, déjà une vingtaine de candidats déclarés. Quelles sont ses chances de remporter le scrutin? Nous lançons le débat.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Retrouvez dès demain Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.
Demain, sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
Visiter un musée devrait être un moment de grâce, mais la surfréquentation en fait parfois une épreuve. Au Louvre, elle s'est traduite par une dégradation des lieux. Alors comment repenser les musées pour les adapter aux nouveaux usages des visiteurs? Nous en parlerons avec nos invités.
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amar, du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.